I'm turning now to Paul's letter to the Romans, chapter 13 and verse 11.
Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu à présent dans la lettre de Paul aux Romains, chapitre 13 et au verset 11. Romains, chapitre 13, verset 11. Et vous devez faire cela vu le temps où nous sommes, car c'est ici l'heure de nous réveiller enfin du sommeil, puisque le salut est maintenant plus près de nous que lorsque nous avons cru. Et notre sujet est le suivant, connaître les choses de l'âme. L'apôtre Paul, souvent, utilise des thèmes militaires, et ceci est particulièrement, majoritairement, un thème militaire. C'est ici l'heure de nous réveiller. C'est urgent, il est temps, puisque le salut est maintenant plus près de nous. La nuit est passée et le jour va venir. Dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres et revêtons-nous des armes de lumière. Il y a une illustration ici. Les soldats sont réveillés très tôt le matin parce que l'attaque vient, c'est un jour de danger. L'ennemi a été détecté, il est prêt et la ville est prête à être envahie, assiégée et ils doivent être prêts, ils doivent se réveiller pour être prêts. C'est là l'image, c'est là ce qui est à l'arrière-plan de ceci, un thème plutôt militaire. Nous n'allons pas parler de ceci ce soir, mais en particulier ce verset est adressé à des chrétiens, à des gens qui ont eu cette expérience de venir à Christ, de le connaître. Ils marchent avec lui, ils le connaissent, ils le servent, mais peut-être qu'ils trébuchent et ils tombent de sommeil. Et l'apôtre Paul encourage chacun et il dit « Réveillez-vous, il est temps d'œuvrer, il est temps de gagner les âmes, de parler aux gens de Christ, par la puissance de l'Esprit-Saint, nous devons faire l'œuvre du Seigneur. » C'est là le sens premier de ce passage. Mais ce n'est pas le seul sens du passage. Ce passage, sans aucun doute, parle également aux incroyants. C'est dans ce sens-là que nous voulons prendre ce texte ce soir. Quand il dit « Connaissant le temps où nous sommes, car c'est ici l'heure de nous réveiller enfin du sommeil. » C'est un appel à se réveiller. Et nous appliquons ceci ce soir à ces amis parmi nous qui n'ont jamais trouvé le Seigneur, qui ne sont pas venus à lui et qui sont encore en dehors du royaume, incroyants. Peut-être qu'ils ne cherchent pas même le Seigneur. Et il y a cet appel à se réveiller. Il est temps de se réveiller du sommeil. Nous parlons ici du sommeil de l'âme, non pas un sommeil physique, mais le sommeil de l'âme, l'inactivité de l'âme. Vos membres fonctionnent parfaitement, et votre corps également. Peut-être que dans aucun sens du terme, vous êtes malade et vous êtes en pleine santé, mais votre âme, spirituellement parlant, est endormie. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous n'avez pas d'expérience spirituelle, vous n'avez pas d'interaction avec votre Créateur, avec le Dieu Tout-Puissant. Peut-être que vous ne pensez pas à ces choses. Vous n'avez jamais désiré ces choses, vous ne voulez pas ceci et vous n'y pensez pas. Ainsi, il n'y a pas de fonction spirituelle dans votre âme. Il n'y a pas de vie dans votre âme. Pas de puissance dans votre âme. Pas de puissance pour contrôler ce que vous faites. Vous avez une certaine mesure de contrôle sur vous-même, mais la plupart du temps, peut-être que vous faites en fonction de ce que vous êtes tenté de faire. Et vos pensées, tout ce que vous faites, dans ces choses, vous ne contrôlez pas. Souvent, vous vous lamentez de cette personne que vous êtes, et en particulier avec les jeunes. « Oh, si seulement je n'avais pas fait cela, si seulement je n'avais pas dit ces mots, si seulement je n'étais pas tombé dans ceci. » Il ne semble pas que vous avez beaucoup de contrôle sur votre vie, vous n'avez pas d'aide dans votre âme parce que votre âme ne fonctionne pas, vous n'avez pas d'aide de Dieu. Et si les gens vous disent toutes sortes de choses qui n'ont pas de sens par rapport à l'incrédulité et pour vous persuader de laisser Dieu de côté, pour vous persuader que ce monde peut être entièrement expliqué en termes matériels, que vous n'avez pas besoin de réfléchir à l'âme, à Dieu, à l'éternité, Peut-être que les gens vont faire ceci et essayer d'utiliser toutes sortes d'arguments qui ne tiennent pas debout, auxquels on a déjà répondu tant de fois. Mais votre âme est endormie, complètement endormie. Il y a des gens qui connaissent bien des villes, certaines villes. Peut-être que quelqu'un qui n'a pas grandi dans une ville, mais en un an, deux ans, peut-être que cette personne connaît la ville parfaitement. Il sait exactement où ne pas aller, où ce n'est pas très sûr. Il sait exactement dans quel magasin aller. Et rapidement, vous savez où aller dans la ville. Et vous connaissez bien la ville. Peut-être si vous avez grandi dans la ville, alors vous la connaissez bien. Mais qu'en est-il de l'âme? Est-ce que vous connaissez votre âme? Est-ce que vous savez ce que c'est que l'âme? Est-ce que vous savez qu'elle ne fonctionne pas en vous, qu'elle est morte, qu'elle dort? Est-ce que vous savez comment la revivifier? Comment entrer en relation avec Dieu? Comment le chercher? Comment le trouver? Le chemin pour aller à lui? Est-ce que vous savez comment être sauvé? Comment marcher avec lui? Ou est-ce que vous ne connaissez rien par rapport aux choses de l'âme? Vous avez toutes sortes de capacités, vous êtes bon pendant vos examens, mais peut-être que nous sommes ignorants par rapport aux choses spirituelles, aux choses de l'âme. Il est temps, dit l'apôtre Paul, il est temps de nous réveiller du sommeil. Parce que vous aimez ce monde, peut-être que vous vous aimez vous-même. Et alors, nous ne connaissons pas les dangers dans lesquels nous sommes. Nous sommes endormis et nous rêvons. Oh, je ne rêve pas beaucoup, mais quand je rêve, souvent je rêve de choses qui sont terrifiantes, mais pas des cauchemars. Mon épouse a des cauchemars, mais pas moi. Et souvent, l'une des choses qui vient dans mes rêves, c'est une bête qui m'attaque. Peut-être un chien féroce ou un lion qui vient. Mais savez-vous, j'ai jamais eu peur dans mon rêve. Dans un rêve, je n'ai pas peur. Parce que je sais dans mes rêves que je peux voler. Et alors que la bête vient pour venir m'attraper, je m'envole. Est-ce que vous avez des rêves ainsi? Un rêve, c'est une fiction. C'est quelque chose qui est irréel. Vous imaginez toutes sortes de choses dans vos rêves. Mais quand vous êtes endormi spirituellement parlant, c'est la même chose. Vous n'êtes pas anxieux. Vous êtes insouciant. Quelqu'un parle de l'âme et vous n'êtes pas inquiet. Quelqu'un parle du diable, de Satan, de l'ennemi de nos âmes. Vous n'êtes pas inquiet parce que vous ne croyez pas dans ces choses. Quelqu'un parle du jour du jugement et de se tenir devant Dieu dans le jugement, l'éternité, et rendre compte de sa vie vécue sur cette terre. Nous sommes comme dans un rêve et nous sommes insouciants. Nous ne sommes pas inquiets. Et c'est ainsi pour l'âme, qui est endormi comme dans un monde de rêves, un monde de fiction. Et nous ne prenons pas ces choses au sérieux, pas du tout. Endormi. Et il y a un autre thème également dans ce verset. Vu le temps où nous sommes, sachant dans quel temps nous sommes, vous devez connaître le temps et savoir dans quel temps nous sommes. Ce premier temps dans ce verset ne parle pas de l'heure de la journée, mais la période ou l'air, vu le temps où nous sommes, dans lequel nous vivons. Est-ce que vous savez dans quel temps vous vivez? Nous pouvons peut-être parler de l'âge de glace ou l'âge de fer, mais vu spirituellement parlant, est-ce que vous savez dans quel temps vous vivez? Le premier temps, la première période du monde, c'est de Adam à Moïse. Et Dieu a œuvré d'une manière particulière dans le cœur des gens. La deuxième grande période dans le monde, vue d'un point de vue biblique, c'était de Moïse à Christ. Quand Dieu a œuvré dans le monde par une nation qui le représentait, qui représentait sa parole, son enseignement. Mais à partir du jour où Christ est venu, le Sauveur promis, et jusqu'à la fin du monde, c'est la période de l'Église, la période de l'Évangile, la dernière période de l'histoire du monde, selon la foi chrétienne, selon la Bible. Vous vivez dans la dernière période du monde, la dernière partie de l'histoire du monde, avant la fin, avant le jugement, avant la consommation finale. Est-ce que vous savez cela? Je suis sûre que vous avez entendu cela auparavant. Mais Voyez-vous, quand nous sommes endormis, nous ne prenons pas ces choses au sérieux. Parfois, nous ne savons même pas dans quel temps nous sommes. Et nous savons si peu par rapport aux choses spirituelles, par rapport à l'éternité. Et l'apôtre Paul dit, sachant dans quel temps nous sommes, c'est là la dernière période de l'histoire. Plus de 2000 ans jusqu'à aujourd'hui. Et connaissant le temps, nous devrions nous réveiller du sommeil. C'est là le temps, c'est là l'heure. Cette période a commencé avec la venue de Christ, selon les prophéties de Dieu, les promesses de Dieu, dans les pages de l'Ancien Testament, tout le long. Et ceci incluait Christ allant la croix du calvaire. Ceci a été prophétisé, le Fils de Dieu éternel, la deuxième personne de la Trinité, qui est entré dans un corps humain, dans une personnalité humaine, pour nous représenter, pour être notre bouc émissaire, pour être celui qui nous rachète, notre Rédempteur. Et après avoir fait tant de miracles extraordinaires, après avoir prêché selon toutes les prophéties et la volonté de Dieu, il s'est laissé arrêter dans une faiblesse apparente et il a été jugé. Et il est allé à la croix du calvaire. Et quelque chose s'est passé à la croix du calvaire que nous pouvons à peine comprendre. Dieu le Père a mis sur lui, a déversé sur lui, Dieu le Fils, toute la culpabilité de chaque homme, chaque femme qui vivra et qui sera pardonné, qui viendra à Dieu au temps voulu et qui sera sous l'aile de Christ, qui se confiera en lui pour le salut. Dieu a déversé toute la culpabilité de tous ces gens, des millions et des millions de personnes, sur Christ. Et il l'a condamné, lui, à notre place. C'est la mort expiatoire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et il a porté toute la condamnation que nous aurions dû porter pour l'éternité. Et ceci comprimé dans l'espace de quelques heures d'une manière terrible. Et il a tout porté. Il est impossible pour nous que de comprendre ces choses. Nous pouvions voir la souffrance extérieure de Christ pendant 6 heures, alors qu'il était là, attaché à la croix du calvaire, mais nous ne pouvions pas voir la souffrance intérieure, la souffrance de son âme, la souffrance de cette séparation entre le Père éternel et le Fils éternel, alors qu'il a porté la condamnation à notre place. Et ainsi, il a souffert. Cette humiliation dans son grand amour pour payer le prix pour notre salut. Parce que même Dieu ne peut pas simplement pardonner le péché et fermer les yeux au péché. Parce que le péché, c'est l'acte, la pensée et la culpabilité, c'est la tâche qui reste après le péché, le résultat du péché. Même Dieu doit détruire le péché et condamner le péché. Il ne peut pas l'accepter. Son caractère juste et saint ne peut pas simplement fermer les yeux au péché. Mais dans sa grande bonté, dans son amour, il est venu en Jésus-Christ, le Sauveur, le Fils, pour souffrir lui-même et pour porter le péché lui-même. C'est si simple et cependant la chose la plus profonde dans toute l'histoire du monde, que Dieu meurt pour nous, que celui qui donne la vie éternelle expérimente la mort dans son grand amour pour nous, celui qui est le médecin de nos âmes et qui va nous guérir pour l'éternité et nous réconcilier avec lui, va souffrir toute l'horreur et la terreur de la condamnation du péché. Nous devons savoir ces choses, chers amis, c'est là l'ère chrétienne où ces choses sont révélées d'une manière merveilleuse pour nous. En sachant dans quel temps nous sommes, est-ce que nous pouvons, chers amis, aller dans l'éternité? Est-ce que nous pouvons faire face à Dieu en sachant que Dieu a fait une telle chose pour nous dans son amour et que nous l'avons méprisé et rejeté et mis de côté et que nous étions complètement indifférents à lui, que nous l'avons méprisé? Vous ne pouvez pas aller dans l'éternité ainsi, chers amis, en insultant Dieu et le don de sa grâce de cette manière-là. Chers amis, c'est les temps derniers et à la fin, c'est le temps du jugement. Les choses éternelles sont dans une certaine mesure décidées ici. Bien sûr, elles sont décidées au ciel, mais dans ces choses, les choses éternelles sont décidées ici-bas. Si nous ne venons pas à Christ pendant notre vie et que nous ne réalisons pas que nous avons besoin de lui et que nous nous repentons devant lui, que nous cherchons sa miséricorde, si nous ne faisons pas ces choses, nous sommes perdus pour l'éternité et condamnés pour l'éternité. Il n'y a pas d'autre occasion. Il n'y a plus d'autre appel à notre âme. Ainsi, l'apôtre Paul dit, en sachant dans quel temps nous sommes, est-ce que, chers amis, vous savez ces choses? C'est là l'ère chrétienne, le temps du salut, où Dieu rassemble les élus, les rachetés, pour toute l'éternité. Et à aucun autre moment, il n'y a pas d'autre occasion plus tard où il fait cela. Et l'athéisme et l'apostasie seront jugés. L'apôtre Paul continue, et notre temps est presque passé, « Car c'est ici l'heure de nous réveiller du sommeil. » Quelle expression ! « Il est grand temps !» Qu'est-ce que cela signifie ? C'est l'heure de pointe, le grand temps. Le premier temps dans ce verset se réfère à l'ère chrétienne, le temps dans lequel nous vivons. Mais à présent, c'est l'heure essentielle et vitale. Et ceci est vrai. Il est grand temps, c'est l'heure critique pour chacun de venir à Dieu pour être sauvé. Les individus, chacun d'entre nous, je parle pour chacun. Vous avez déjà donné des années au péché. Vous avez déjà passé des années dans l'incrédulité. Et ceci s'empile contre vous. Et il est grand temps pour chacun d'entre vous de venir à Christ. Vous avez ces péchés de l'intérieur et ces péchés de l'extérieur, c'est-à-dire les actes. Et les péchés de l'intérieur, c'est notre état, notre condition de péché. Ce n'est pas simplement ce que je fais, mais ce que je suis également. Je fais ceci et cela, et je suis peut-être orgueilleux. Je suis, dans ma nature même, peut-être malhonnête. Je suis peut-être égoïste. Le péché, ce n'est pas simplement ce que je fais, mais ce que je deviens, ce que je suis. Et pendant des années, j'ai vécu ainsi. Il est grand temps de nous réveiller. J'ai besoin désespérément du pardon de Dieu. Et j'ai fait tant de choses insensées. Et j'ai cru tant de choses insensées. Et le jour où je vais devoir rendre compte arrive. Et il est grand temps pour chacun d'entre nous si nous sommes incroyants, parce que nous sommes en danger. Le péché, c'est comme une pieuvre avec des tentacules. Plus vous êtes dans le péché de toutes sortes, plus ces tentacules vous entourent et vous êtes agrippé par le péché et piégé dans le péché. Et plus les années passent, plus il est difficile, si ce n'est pas impossible, de se détourner de ces mauvaises habitudes, de ce péché, de ce mauvais caractère. Parce que ces choses vous contrôle, et ce n'est pas simplement une pieuvre, mais plusieurs pieuvres et plein de pieuvres. Il est grand temps, parce que vous avez toutes ces choses contre vous, déjà, tous ces péchés qui sont là contre vous. Oh, je ne veux pas vous offenser, mais parce que vous êtes de plus en plus dans ces choses et agrippé par ces choses et piégé par ces choses. Peut-être qu'avec l'aide de Dieu, vous pouvez vous détourner de ces choses quand vous avez 15 ans. Mais à 25 ans, vous êtes encore plus agrippé par ces choses et vous avez plus de préjugés. Et ces choses vous agrippent de plus en plus et vous tiennent de plus en plus. Et il y a un grand danger que Dieu vous retire sa patience. L'Esprit de Dieu, dans une certaine mesure, œuvre dans chaque personne. Et il en arrive à un point où la patience de Dieu et comme épuisé, cette personne, je vais la laisser. Cet homme, cette femme, je vais les laisser. La Bible dit, vous êtes donné au péché à l'incrédulité. Ou si seulement vous le saviez, peut-être il vous reste 10 ans, peut-être il vous reste 30 ans. Mais ce ne seront pas des années d'occasion, avec des occasions pour se tourner vers le Seigneur, parce qu'il a retiré sa main. Même ceci peut se passer. Ainsi, l'apôtre Paul, dans sa bonté, nous dit « Il est grand temps de nous réveiller. C'est essentiel. C'est crucial. Nous devons penser au Seigneur. Nous devons désirer sa miséricorde en sachant dans quel temps nous vivons. À présent, il est grand temps de nous réveiller enfin du sommeil. » Et il dit, puisque le salut est maintenant plus près de nous. Ceci est pour les chrétiens. Si vous êtes près de Dieu, que vous vous repentez de votre péché, quand vous fléchissez le genou devant lui, que vous lui demandez de vous accepter, de vous bénir, de vous transformer, de faire de vous son enfant, de vous donner cette communion avec lui-même et la vie éternelle, alors il le fera. C'est là la fin du voyage. Mais si vous ne le faites pas, le temps sera passé et alors viendra le jugement et vous devrez lui faire face. Il est grand temps. Il y a un cantique de Charles Wesley. Je lis une strophe ou deux. Cette profondeur de miséricorde, est-ce qu'il y a encore cette miséricorde pour moi? Est-ce que mon Dieu va mettre de côté sa colère et me faire grâce à moi, un grand pécheur? Si longtemps j'ai mis de côté sa grâce et j'ai résisté, je l'ai provoqué. Et j'ai résisté, j'ai rejeté son appel et je l'ai offensé des centaines de fois. Mon Sauveur se tient là, il montre ses blessures et il montre ses mains. Dieu est amour. Oh, je sais, je ressens que Jésus plaide et moi je suis un pécheur silencieux. Pourquoi est-ce que je devrais mettre de côté son amour, rejeter son amour? Mais oh, je plaide mon avocat. Et je plaide son amour et je viens à lui. Pour les individus, pour la société, il est grand temps. La Bible nous enseigne qu'à la fin de l'ère chrétienne, il y aura un temps particulièrement difficile d'apostasie où la société sera contre Dieu. Et nous voyons ceci de nos jours. Toutes les prophéties de l'Écriture qui parlent des choses terribles et des mauvaises choses qui seront rendus justes par la loi nationale et ce qui est juste sera condamné. Et nous voyons ceci, nous avons vu ceci depuis les 20 dernières années, des signes de la fin des temps, la fin même des temps où le moment du jugement est très proche pour la société. Il est grand temps, c'est un temps critique. Les bonnes choses qui sont illégales, même on enseigne aux enfants une moralité alternative et comment expérimenter avec la moralité pour leur propre plaisir et convoitise. Ce sont des choses terribles. Les médias publics sont saturés comme jamais auparavant par la souillure, l'impudicité et la méchanceté et le blasphème. Il est grand temps, dit l'apôtre Paul. Les arguments athées sont promus et disséminés plus qu'auparavant. Même des institutions nationales, comme la BBC par exemple, sont des instruments pour disséminer ces choses et pour balayer la foi et promouvoir l'athéisme. Ceci est plutôt nouveau depuis les dernières 10 ou 20 années. L'apôtre Paul dit pour la société et pour les individus, il est grand temps de nous réveiller du sommeil. Et je vais conclure avec ces paroles, chers amis. La nuit est avancée, dit-il, et le jour approche. Peu importe votre âge, nous pouvons dire la même chose. Jeunes gens, qu'est-ce que cela signifie? Peut-être que vous avez moins de 25 ans. Vous êtes jeunes, jeunes gens. Le temps où nous formons nos perspectives sur la vie, un temps où vous vous donnez à quelque chose qui sera votre maître et votre seigneur dans votre vie, un temps où vous êtes formé en tant que personne, vous êtes modelé plus que dans un autre temps, un temps où vous avez la plus grande capacité à apprendre. Et vous pouvez, dans votre matière grise, apprendre tant de choses si rapidement. Et très rapidement, ceci finira. Cette phase de votre vie où vous apprenez et vous n'allez pas trouver le Seigneur, vous ne connaissez rien par rapport à sa vérité et la vie est comme un rêve. Et vous n'avez jamais goûté au Seigneur, vous ne l'avez jamais expérimenté, il ne vous a jamais formé et modelé, il ne vous a pas donné un cœur nouveau et une vie nouvelle. Et ainsi, si vous êtes jeune, ceci est vrai pour vous, il est grand temps. Parce que cette période glorieuse va très bientôt finir, vous avez besoin du Seigneur, chers amis, peut-être un temps où vous êtes parents. La période d'après, où vous formez d'autres, vous formez vos enfants, quelle responsabilité vous formez d'autres et vous semez des semences dans vos jeunes années. Est-ce que vous semez une semence d'amertume ou de joie? Et toutes les grandes erreurs peuvent être faites là, dans les premières années de votre mariage. Votre époux, votre épouse, peut-être ne vous pardonnera jamais pour ces erreurs dans votre mariage. Peut-être vous allez semer l'amertume, ou peut-être que vous allez semer la joie, le bonheur. Qui va vous montrer comment vivre? Est-ce le Seigneur de gloire qui vous forme, la parole de Dieu qui vous influence, qui vous dirige? Est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous avez son aide? Ou est-ce que vous passez durant toutes ces années à la période d'après, l'âge de la quarantaine, avec beaucoup de responsabilités, c'est évident. Votre exemple, votre influence est là à son apogée, mais vous n'êtes pas un bon exemple, vous n'êtes pas une bonne influence. Tout pour vous est matériel, les choses de la chair. Vous êtes matérialiste, une personne terrestre, qui n'a jamais été changé par le Seigneur, transformé, qui n'a jamais été modelé par l'Esprit de Dieu, qui n'a jamais été près de lui. Quelle tragédie! Et après, vous êtes âgé. Dans chaque période de la vie, c'est un temps important et crucial. Et vous n'avez pas compris la merveille du salut, de la réconciliation avec Dieu, de la foi. Il y a peu de temps qui reste. Quand vous êtes dans votre période, dans la vieillesse, quelle tragédie si vous ne connaissez pas Christ. Ces paroles sont essentielles en sachant dans quel temps nous vivons, car il est grand temps de nous réveiller enfin du sommeil. La nuit est avancée, le jour approche, dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres et revêtons-nous des armes de lumière. C'est là le message. Dépouillons-nous des œuvres de ténèbres. C'est comme les soldats qui se lèvent pour la bataille finale. Dépouillez-vous de la couverture du duvet. Est-ce que vous allez faire cela? Mais la plupart d'entre nous, nous avons essayé de nous lever petit à petit, graduellement. Vous ne pouvez pas faire cela. Vous ne pouvez pas dire, oh, si c'était l'hiver, par exemple, s'il faisait froid, vous ne dites pas, « Oh, je vais d'abord commencer à enlever 5 cm. » Non, ceci ne va pas fonctionner. Ou peut-être la moitié de la couverture. Non, vous savez bien que vous devez vous lever et faire cette chose de manière décidée. Vous devez ôter la couverture. Vous ne pouvez pas vous lever petit à petit durant toute la matinée ou durant toute la journée. Non, vous devez vous dépouillez des œuvres de ténèbres, de cette couverture, de la vie ancienne, de la vie matérielle, de cette vie qui n'est pas spirituelle. Dépouillez-vous de ces choses. Mais c'est impossible de faire cela. Quand l'apôtre Paul dit « dépouillez-vous des œuvres de ténèbres », il ne dit pas que vous pouvez vous convertir vous-même, que vous pouvez changer votre vie par vous-même et mériter la bénédiction de Dieu. Non, ce qu'il veut dire là, c'est la chose que vous pouvez faire, vous pouvez renoncer à votre ancienne vie. Vous ne pouvez pas simplement vous en débarrasser, mais vous pouvez renoncer à votre ancienne vie et vous repentir. Et alors, Dieu va vous rendre capable de vous en séparer. Et il va vous transformer, vous donner une vie nouvelle et il va vous pardonner et vous mettre sur le chemin vers le ciel. C'est lui qui va le faire. Revêtez les armes de Dieu, revêtez Christ, repentez-vous de vos péchés, soyez justifiés par Christ, recevez son pardon libre, recevez sa vie nouvelle, recevez le ciel, recevez une nouvelle compréhension, recevez une nouvelle direction dans votre vie, un nouveau but et un nouveau sens dans votre vie, c'est là la conversion. Venez à lui de manière décidée, repentez-vous de votre péché et confiez-vous en Christ seul pour être sauvé. Et remerciez-le, louez-le et demandez-lui de vous pardonner, de vous transformer. Et si vous êtes sincère, c'est ce qu'il fera. C'est là le grand miracle de la conversion. La plus grande expérience de la vie sera la vôtre. Prions ensemble. Ô Dieu, notre Père céleste, fais-nous grâce, nous te prions. Seigneur, amène-nous à ce point où nous réalisons notre besoin de ton pardon, de ton amour, de cette vie nouvelle, de la conversion de notre âme, et amène-nous à toi dans la repentance et dans la foi. Aide-nous, Seigneur, chacun, même ce soir, nous te demandons ces choses dans le nom de notre Sauveur, pour sa gloire. Amen.